On devait aborder Actes chapitre 3, mais bon, quelque part je me dis pourquoi pas, ça fait déjà quelque temps que je travaille sur un thème, parce que je pars en Belgique donc ce mardi jusqu'à vendredi, pour aborder un thème général, un thème global, qui n'est pas facile. J'ai peur de me faire des ennemis, je vous dis franchement. C'est un rapport avec les Premières Nations, bien entendu. Et en fait, ce thème serait normalement en trois parties. J'ai trois fois une heure à peu près, sans compter les moments de partage, les vidéos que j'ai préparées. Donc là, j'ai pas du tout les vidéos, donc ben, je vous dispenserai de ceci, mais je pourrais vous les envoyer si vous voulez. En fait, le thème global, c'est vivre un évangile contextualisé. Et trois rencontres, en fait, trois axes. C'est premièrement le rapport à la nature, le rapport à la nature et la doctrine de la création. Deuxièmement, le rapport à l'homme, doctrine de la découverte. C'est ce que je vais vous partager ce matin. Beaucoup d'entre nous ne connaissent pas ça. C'est triste parce qu'on nous apprend même pas ça à l'école biblique. Troisièmement, le rapport à Dieu et la doctrine du Créateur. Au niveau de la doctrine de la création, en fait, j'ai réalisé, et je vais vous lire un passage pour ça, on va commencer juste en lisant un passage de la Bible, dans Romains au chapitre 8, à partir du verset 18. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi, nous avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ce texte mêle les soupirs, la souffrance de la création, avec notre propre souffrance, notre humanité, notre vieillesse, notre arthrose, notre arthrite, nos problèmes aux yeux, nos problèmes de dents, notre corps qui va doucement vers la fin, mais on attend, comme la création, qu'il y ait un renouvellement. Et nous aurons un renouvellement, à un moment donné, un renouvellement de toutes choses. Autant de la création que nous-mêmes, nous faisons partie d'un tout. Au commencement, Dieu. Dieu a créé la terre, Dieu nous a créés. Au commencement, Dieu. Et c'est vrai que dans le premier aspect, au niveau de la création, doctrine de la création, c'est quelque part pour dire que finalement, Paul va affirmer, même par rapport à Christ, et ça c'est normalement le troisième axe, en disant « Mais tout subsiste en lui, par lui, tout l'univers est maintenu en vie. » Il parle de qui? Il parle de Christ. Par lui, tout est maintenu en vie. Il est celui qui a tout créé. Il est le Créateur. Normalement, je finis par ça. Là, je commence un peu par ça, parce que c'est l'aboutissement, finalement, de ma réflexion là-dessus, sur ce sujet. Et quand je vois la façon dont nous avons, et je dis nous parce que je m'inclus là-dedans, nous traitons la terre sur laquelle nous marchons, la nature, qui est celle qui nous nourrit, qui est notre mère. Alors il y en a qui seraient très choqués en disant « Ouais, mais là tu parles, ça c'est la spiritualité amérindienne. Hein? » Ouais, non, mais attends. C'est bien de la terre que nous avons été tirés, n'est-ce pas? Et elle souffre. Elle crie « Stop, j'ai mal. J'ai mal, j'en peux plus. » Mais on l'utilise comme un bien de consommation, comme quelque chose qui nous appartient, comme quelque chose que nous devons soumettre, quelque chose qui fait peur, quelque chose qui est sauvage. La nature est sauvage. Donc on doit la dompter, on doit la maîtriser avec notre raison, on doit l'utiliser. On doit l'utiliser par rapport à une vision du monde que nous avons. Nous avons une vision du monde que nous héritons de par notre civilisation. Et cette vision du monde inclut la manière dont on traite la nature, mais n'inclut pas que ça. La manière dont nous vivons notre religion, la manière dont nous vivons notre Église, la manière dont nous vivons notre rapport à l'autre, notre vision du monde détermine tout ça. Et il y a des tas de visions du monde. Mais moi, celle qui m'intéresse, c'est la vision du monde que nous avons, que nous allons adopter par rapport à Christ. Parce qu'il est au centre. Parce que c'est lui qui a tout créé. C'est par lui que tout subsiste. Et c'est par lui que tout va être renouvelé. Il est créateur. Il est le Logos. Il est la lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres de la vie, mais il aura la lumière de la vie. Cette lumière créatrice de vie. Depuis le début de l'âge industriel, parfois même en prenant appui sur des verbes du livre de la Genèse, hein, on a vu se développer des dominations immodérées, une exploitation presque sans borne de toutes les ressources naturelles de la création. Et les chrétiens que nous sommes, on ne s'est pas privé de profiter finalement de tous les progrès possibles et imaginables, même si on réalise aujourd'hui les conséquences désastreuses de cette surexploitation, parce qu'il y a surexploitation. On a surexploité. Et il n'est pas normal que le souci du rendement, qui a sa part légitime, hein, et conduit par exemple les éleveurs à utiliser souvent sans discernement ni précaution suffisante des farines animales, des antibiotiques, des hormones. Est-ce qu'il est juste d'utiliser la puissance de nos machines? Parce qu'on a des machines qui sont très puissantes, mais pour détruire les espaces naturels, 9 millions de kilomètres carrés ont été défrichés et transformés depuis 1850. Pour répondre aux besoins d'une population et d'une urbanisation croissante. 1,4 million d'espèces animales et végétales. En réalité, il y aurait probablement 4 à 5 fois plus d'espèces sur la surface de la Terre. Mais nous avons une vision du monde que nous héritons de par la civilisation, à contrario de la sauvagerie et de la nature. Mais pas que ça. Ça, c'est la doctrine de la création. Dans le jardin d'Éden, Dieu a donné à Adam et Ève la possibilité de garder ce jardin. Dans Genèse 9, je crois que je l'avais déjà dit ici, Genèse 9, on voit Noé, Dieu en train de faire alliance avec Noé, avec les animaux et avec la terre. Il fait une alliance globale. Nous, en tant que chrétiens, je ne dis pas de devenir des militants écologistes, il ne s'agit pas pour nous de bercer de protéger la nature. C'est elle qui nous protège. C'est elle qui nous nourrit. Mais de la respecter, peut-être qu'on n'y pense pas vraiment. Moi qui ai vécu à la ville, c'est vrai que c'est quelque chose qui me dépassait. Je comprenais pas vraiment. Et puis on a vécu tellement dans un contexte où le progrès allait améliorer notre condition de vie, où finalement, la technologie allait nous aider. Et c'est vrai que dans certains sens, elle nous a aidés. Les médicaments, etc. Les avancées au niveau technologique, au niveau des opérations, par exemple. Mais bon, ça a peut-être augmenté un peu notre espérance de vie, mais à quel dépend ? En tant que chrétien, quel est le problème de notre espérance de vie ? Est-ce qu'il y a vraiment un problème d'espérance de vie avec nous ? Nous avons l'éternité devant nous, n'est-ce pas ? Les plus vieux d'entre nous ne sont qu'au début. Ils ne sont qu'au début de leur vie. Mais le plus début, hein. Alors, c'est vrai que notre éthique, notre façon de voir la création ne va apporter qu'une amélioration partielle. Dieu seul reste souverain. Mais on doit combattre le mal. Moi, je suis toujours, et je le suis de plus en plus, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais effaré de voir que, finalement, on descend dans les rues contre le mariage pour tous, mais contre des choses qui touchent à la terre. Les chrétiens, ils sont où ? Il n'y en a pas beaucoup qui se mobilisent pour ça. C'est à croire que, finalement, on a des choses plus éthiques que d'autres. Bref. On sait tous que l'histoire des Indiens, ben, c'est une très longue suite tragique et sanglante de massacres, de traités violés, d'épidémies, de maladies importées, contre lesquelles ces derniers ne possédaient aucune immunité. Le tout accompagné de vols de territoire et d'une entreprise de destruction d'assimilation culturelle et religieuse. Alors, la première rencontre, normalement, c'est sur le thème de la création. Et on parle de civilisation. Ce que nous appelons civilisation. Selon le dictionnaire, civiliser, c'est amener une collectivité, une société, à un état de développement plus complexe d'un point de vue culturel et matériel. Voilà, ça c'est la définition du dictionnaire. On continue. Les synonymes. Élever. Rendre une personne plus polie, plus raffinée dans ses manières. Ça, c'est les synonymes du mot civilisé, du verbe civiliser. Vous imaginez un peu ? Quand on regarde notre civilisation aujourd'hui, est-ce que nous sommes plus polis, plus raffinés dans nos manières ? Est-ce que on est dans une société qui a un développement plus complexe, peut-être, d'un point de vue culturel, matériel peut-être ? Culturel, je sais pas. Je suis pas sûr. Vous savez, les premières réserves étaient appelées des prayer towns, des villages de prière. En 1871, Edward Taylor, le fondateur de l'anthropologie moderne, écrit ce qui suit. Écoutez bien. La référence d'après laquelle je détermine le progrès ou le déclin n'est pas une notion idéale du bien ou du mal, mais la progression le long d'une ligne graduée, indiquant les différents stades de sauvagerie, de barbarie et de civilisation. La thèse que j'ose soutenir est que l'état de sauvagerie représente, dans une certaine mesure, un état primitif de l'humanité, à partir duquel la culture supérieure s'est développée ou a évolué selon des processus toujours en cours aujourd'hui. Les résultats montrent que le progrès a dans l'ensemble prévalu de beaucoup sur les régressions. Ça, c'était en 1871. Si on faisait le constat aujourd'hui, après 5 siècles de colonialisme, est-ce que finalement on ne puisse pas comprendre l'anéantissement d'un peuple ? Alors c'est vrai que ma découverte à moi, elle est très très loin de la découverte d'un monde paradisiaque, hein, même si les paysages sont magnifiques. Vous savez, on a toujours plein d'idées, plein de projets d'évangélisation, d'ambition, pour ces pauvres gens qui n'ont pas Jésus. Plein. J'en ai eu moi aussi pour les Amérindiens. Puis finalement, j'ai vite compris qu'il fallait que je m'y prenne autrement. Il y a un certain Folcro, Medicine Man, qui écrit ceci. Il dit « Les Blancs étaient arrivés à la conclusion qu'il fallait civiliser sans attendre les Indiens sauvages et païens, importer en priorité de transformer les Indiens en Blancs le plus vite possible. Personne ne songea à se demander si les Indiens étaient consentants, ni si les Blancs, par leur comportement, avaient su leur inspirer le désir de les imiter. » Parce que, sincèrement, la vraie question, elle est là. Est-ce que j'inspire le désir de m'imiter dans ma vie, dans ma foi? Notre façon de faire, parce que nous détenons la vérité, entre guillemets, parce que nous avons du pot et de la chance de tomber dans la bonne église, et bien sûr dans la bonne dénomination, ça fait beaucoup de chance, hein, on aurait pu jouer au loto. Et que les autres sont dans l'erreur, bien entendu. Est-ce que ça nous donne des droits? Est-ce que nous ne nous octroyons pas aussi dans notre façon de faire des droits qui ne nous appartiennent pas, comme ceux que nous nous sommes octroyés avec la nature? C'est un peu pareil, n'est-ce pas? Soumettre, dans l'Ancien Testament, c'était prendre soin. Soumettre, derrière le mot soumettre, il y a une idée de respect, il y a une idée religieuse, spirituelle. Mais bien sûr, on ne l'a pas lu de cette manière-là. Alors bien sûr, on a entendu des choses du genre « Les Indiens aiment l'alcool, ils aiment l'eau de feu. » D'ailleurs, c'est ce qui a causé leur perte. Aux États-Unis, au Canada, on entend bien pire. Ils profitent du système et toutes les aides de l'État. Si vous saviez, ce sont des feignants, des irresponsables, des assistés. Ils laissent leurs enfants à l'abandon. Et moi, j'aimerais bien savoir, tous ceux qui disent ça, s'il y en a un qui a déjà visité une réserve autochtone, un qui a déjà mangé avec des autochtones, fait un repas communautaire avec eux. Qui peut m'expliquer la loi sur les Indiens? La mise en réserve et les pensionnats? Personne. Qui est au courant que les Indiens font des manifestations, font des barrages routiers? Là, tout le monde. Parce que les médias en parlent. Non. L'histoire de l'Amérique n'a pas commencé en 1534 ou en 1492. Nous avons des conceptions comme ça de l'histoire. En tout cas, celles qui sont enseignées en Europe. Hier, j'ai passé près de 2 heures pour trouver des vidéos ou des articles en français sur la doctrine de la découverte. Je n'en ai pas trouvé. En anglais, il y en a des tonnes. En français, en Europe, il n'y en a pas. C'est-à-dire que l'Amérique aurait été un pays vide avec 2-3 petits sauvages tout nus sur le bord de la plage qui attendaient que nous arrivions, bien sûr. Et les Européens sont arrivés, ont pris possession d'une terre vierge, inhabitée, bien sûr, sans culture, sans rien. Et ce, à partir de 1492, Christophe Colomb, 1497, John Cabot, et 1534, Jacques Cartier. En réalité, à partir de l'an 1000, il y avait déjà des gens là-bas. Il y avait déjà les Vikings, les Basques. Comment on le sait? Il y avait déjà des cartes. Il y avait une structure. Parce que lorsque Jacques Cartier a débarqué, il existait ces cartes. Ville-Marie, par exemple, était une ville d'Iroquois, de 2000 habitants. 2000 habitants! Des sédentaires, des agriculteurs, des commerçants. Et la plus grande concentration se trouvait autour des Grands Lacs. Tout comme les Vandas. Les Vandas, c'est les fameux Hurons. Leur vrai nom, c'est Vanda. Mais lorsque les Français sont arrivés, au lieu de leur dire « Eh, comment vous vous appelez ?» Ils ont dit « Non, ben, ils ont une hure, là, de sangliers, de cochons. En fait, on va les appeler Hurons. » C'est sympa. C'était tellement plus simple. En fait, à cette époque, il y avait 6 nations iroquoises comprenant les Vandas, c'est-à-dire entre 50 et 60 000 individus par nation. 50 à 60 000, c'était une nation. En Amérique du Nord, Mexique, Canada, États-Unis, il y avait 500 nations. Les recherches anthropologiques nous rapportent qu'il existait probablement entre 50 et 70 millions d'individus, dont 10 millions au Canada lorsque les Européens sont arrivés. En 1585, les Indiens ne sont plus que 7 millions. Ils sont où? Ils ont disparu. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Les pays colonisateurs, France, Angleterre, Espagne, à peu près la même démographie, même quantité de population. C'était pas la découverte d'un continent vide, loin de là. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les Européens quand ils sont arrivés au Canada? Ils ont passé 2 semaines à discuter avec les Iroquois ainsi que le grand chef de Nakono et ses 2 fils. Et les Iroquois sont venus avec des fourrures, entre autres, car 10 millions d'individus sont capables non seulement de faire du commerce, mais quand même d'avoir une économie, mine de rien. Et après avoir passé 2 semaines, Jacques Cartier a planté une croix, vous le savez tous, hein, c'est ce tronc d'arbre-là que les Indiens ont dit « Mais c'est quoi ça ?» Puis il a dit « Non, mais ça me servira de repère quand je reviendrai l'année prochaine. » Et en fait, qu'est-ce qu'il y avait sur ce morceau de bois? Une pancarte avec écrit « Au nom de la reine d'Angleterre et de la Sainte Église catholique ». Il n'y a jamais eu aucun traité territorial signé au Québec. Elle appartient aux Anishinaabés, aux Algonquins. Êtres humains issus de la terre, ça veut dire. Les êtres humains issus de la terre. Contrairement aux États-Unis. Alors c'est vrai qu'avec la France, il y a eu beaucoup d'échanges. Business. D'ailleurs, on voit les résultats. La France n'est pas très présente là-bas. Il existe une proclamation royale qui stipule que les Anishinaabés sont les propriétaires du terrain qui date, à quelques années près, à la revendication des Québécois concernant la langue française, c'est-à-dire 1754, l'acte du Québec. Je ne veux pas jeter la pierre aux catholiques. Ce n'est pas du tout mon intention avec la doctrine de la découverte. De nombreux Huguenots, moi qui en étais si fier, en disant « Mais... Huguenots, mais c'est fabuleux. C'est les protestants, enfin, ils sont comme moi. » Quand ils sont arrivés là-bas, de nombreux ont fait exactement ce que eux ont subi ici. Persécutés, ils sont devenus persécuteurs. Mais ça, on ne le dit pas. Ça, on ne le dit pas. On ne peut pas le dire. Chut. Alors que les puritains du XVIIe siècle croyaient avoir été choisis par Dieu pour peupler le Nouveau Monde. Les Euro-Américains du XIXe siècle étaient persuadés que la nature les avait sélectionnés dans le même but. De nombreux puritains ne demandaient rien de moins à l'Indien que de répudier non seulement sa culture, mais également sa communauté. Sur les 1100 Praying Indians, 119 seulement étaient baptisés, dans l'espoir que cela les protégerait des maladies, et leur permettrait d'acquérir le pouvoir supérieur des Européens. Je passe sur les centaines de massacres, dont celui des 2000 Narragansett, hommes, femmes et enfants, la plupart d'entre eux carbonisés dans l'incendie de leur village, dans la vallée du Connecticut. Un certain Chris Mather écrira avec jubilation, je cite, « Quand les rares survivants virent les cendres de leurs frères mêlées à celles de leur village, où les Anglais avaient fait du bon travail toute la journée, ils se mirent à hurler, à vociférer, à s'arracher les cheveux et à courir dans tous les sens, comme autant de diables plongés dans le désespoir. » Alors bien sûr, à cette époque, très vite, il y a certains éléments qui sont arrivés en surface, désolé. Et les théories de l'évolution ont fleuri dans les ouvrages consacrés aux Amérindiens. Ainsi, en 1871, Mark Twain, qui n'a pas entendu parler de Mark Twain, décrivait les gauchutes du Grand Bassin comme, je cite, « le type humain le plus lamentable que j'ai vu jusqu'à ce jour. Les Bochimans et nos gauchottes descendent manifestement du même gorille, kangourou ou rat d'égout, selon l'Adam animal que les darwiniens leur accordent pour ancêtre. » Et bien sûr, quand on considère une population comme des nuisibles, eh bien, on agit comme avec des nuisibles, hein. On essaye de s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. On a Lord Jeffrey à Amherst, 1763, qui volontairement, a emporté la variole. On va vous dire non, mais non. Bon, je passe sur la citation de Marlon Brando, parce que ça va vous donner, si vous n'avez pas assez mangé ce matin, ou trop mangé, en tout cas, c'est écœurant. L'aspect clé de mon propos sur la doctrine de la découverte, c'est peuple élu, terre promise. Peuple élu, terre promise. Au nom de Jésus-Christ. Quel est le rapport avec le titre du second point, hein, vision du monde? Vision de la création, peuple élu, terre promise. Vision de la civilisation, peuple élu, terre promise. On en est toujours là. On en est toujours là. L'homme, malheureusement, c'est un loup pour l'homme. Genèse. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Psaume chapitre 2, versets 8 et 9. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Le nom de Dieu, comme le disait Michel Bakounine, est la terrible massue historique avec laquelle les hommes divinement inspirés, les grands génies vertueux, ont abattu la liberté, la dignité, la raison et la prospérité des hommes. Et pareil, c'est pas étonnant avec ça qu'on se confine dans sa réserve, sans eau ni électricité, et que même en s'assimilant linguistiquement, parce que c'est ce qu'on a vu, certaines communautés s'attachent quand même à conserver des traits culturels qui leur sont propres. Pas étonnant que quand tu arrives avec une Bible à la main, on te dise « Oh, ça c'est les Blancs, dégage !» Mais le pire, les amis, le pire, c'est que l'islam trouve écho chez eux, aujourd'hui. L'islam trouve écho chez eux. Et là, je me dis, mais on a du pain sur la planche. Est-ce que ce modèle est la source du colonialisme? Est-ce que ce modèle est celui qui sous-tend encore notre société, même si Dieu a été retiré à part de la Constitution des États-Unis, hein? Vous savez, ces questions, elles sont quand même pertinentes, car elles répondent peut-être à la situation de la planète. Peut-être même qu'elle répond à l'état dans lequel la création tout entière est en train de crier « j'ai mal ». Peut-être. Pour Abraham, sa première tâche fut d'extirper, de déraciner les Cananéens, non hébreux de la terre promise. Sa seconde tâche fut de replanter, de repeupler la terre promise avec sa descendance. Pendant les 15e et 16e siècles, et plus tard, les monarchies et nations de la chrétienté tirèrent le narratif de l'Ancien Testament, se référant au peuple élu, et à la terre promise de son contexte géographique moyen-oriental, et commencèrent à l'appliquer au reste de la planète. Donc, c'est exactement ce modèle cognitif, hein, qui est là, peuple élu, terre promise, qui fait partie de la toile de fond de notre histoire. C'est la toile de fond. On peut ne pas la regarder, on peut dire non, mais nous, ça ne nous regarde pas, mais elle est bien là, c'est la toile de fond de notre histoire. Il faut le regarder en face. Pourquoi j'ai envie de le regarder en face? Parce que tant que je serai dans le déni, comment voulez-vous que j'apporte la réconciliation avec les gens autour de moi, avec les peuples? Tant que je suis dans le déni, tant que j'accepte que le christianisme soit comparé à la civilisation moderne et à l'Occident, alors que ça n'a rien à voir avec ça, et qu'aujourd'hui on paye les pots cassés. Comment puis-je annoncer la vérité s'il n'y a pas de réconciliation? Vous comprenez ce que je veux dire? La toile de fond de notre histoire, c'est celle-là. Sincèrement, je crois que nous devons nous repentir de ça, même si on n'en est pas, peut-être pas directement concerné. Posséder les terres des peuples indigènes est en réalité l'affirmation d'un droit divin. Moins de 3 siècles après que Christophe Colomb ait foulé le continent, les pères fondateurs euro-américains travaillèrent dur intellectuellement pour créer le cadre politique et légal des États-Unis. Le monde qu'ils désiraient créer était un monde duquel les Indiens seraient soit éliminés de leurs terres, assujettis, ou, alternativement, un monde où la vaste majorité des terres indiennes seraient colonisées, saisies par les États-Unis, et les Indiens seraient forcés de vivre sous la domination impérialiste, le pouvoir et leur contrôle. Ça, c'est la réalité de l'histoire. Nous héritons de cette histoire. Alors, Colomb, un héros culturel, ouais. Je passe sur plein de détails. Est-il étonnant ensuite de lire les conclusions politico-religieuses de Max Weber, qui est un sociologue, hein, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme? Est-il étonnant de nous retrouver dans un monde de conquête, de profit, d'assujettissement, de domination, tel que notre planète, humain et création, sont en train de crier « j'ai mal » ? Parce que j'ai mal, moi aussi. Vous avez pas mal ? Moi, j'ai mal, je souffre de voir ce qui se passe. Je souffre de voir à quel point on est complètement malade. À quel point on va faire la COP21, à discuter du climat, etc. Et puis à côté, on va faire le pacte de compétitivité, où il faut de la compétition. Et il faut trouver des ressources. On signe des traités, en avant, avec Cuba. C'est intéressant. C'est intéressant. Est-ce que être heureux, c'est vivre matériellement au top et vivre longtemps parce qu'on a des médicaments, ou vivre heureux, c'est autre chose? Est-ce que nous avons perdu la notion de satisfaction? Cette satisfaction qui nous permet de dire « je suis satisfait de ce que je possède, je suis satisfait de peu de choses ». Est-ce que la modestie ne fait plus partie du langage courant? Après, c'est à nous de placer le curseur, bien entendu. Bien sûr, j'avais parlé déjà des pensionnats autochtones, vous en avez entendu parler 50 fois. Mon ami Melvin Nez, le prédicateur itinérant navarro, me disait que lorsqu'il parlait navarro, on lui faisait manger du savon. On lui faisait manger des savonnettes. J'ai fait une enquête là-dessus, j'ai des dossiers, j'ai un gros dossier. C'est un pasteur qui s'appelle Kevin Annett. Si vous avez l'occasion d'aller regarder sur Internet, c'est A-N-E-T, Kevin Annett, révérend, qui a commencé son ministère dans un petit village au Canada et qui s'est aperçu que les autochtones ne venaient pas dans l'église. Et quand il a commencé à dire ça, il a dit « oh là là, laisse-les où ils sont et nous on est là et c'est bon. Hein. » Ah bon ? Et puis il a commencé à les rencontrer, puis à s'apercevoir que c'était des gens normaux. Et petit à petit, il a fait des enquêtes, et il s'est aperçu que c'est des gens qui reproduisaient ce qu'ils avaient subi. Et ce qu'ils avaient subi, c'est rien à côté de ce qu'on a entendu avec Denis, et ce que je vous avais dit la dernière fois. Il y a des choses que vous pouvez même pas vous imaginer. Sur 100 000 enfants, il y en a la moitié qui sont décédés. La moitié. C'est un truc de fou quand même. On faisait des essais avec des médicaments sur eux. Par exemple. Des témoignages à vous faire dresser les cheveux sur la tête. Peut-être pas les miens, mais... En 1850, au Canada, se crée l'Acte des Sauvages, aujourd'hui renommé par la loi sur les Indiens. L'Acte des Sauvages. Stipule 1, ce sont des peuples inférieurs. 2, ils sont incapables de se gouverner et les autorités coloniales sont les mieux placés pour savoir comment protéger leurs intérêts et leur bien-être. Troisièmement, la relation spéciale fondée sur le respect et le partage que consacraient les traités était une anomalie historique qui n'avait plus sa raison d'être. Quatrièmement, les idées européennes de progrès et développement étaient de toute évidence correctes et pouvaient être imposées aux autochtones sans tenir compte des autres valeurs, opinions ou droits qui pouvaient être les leurs. C'est écrit noir sur blanc. Hein. Duncan Campbell, 1862, il est mort en 1947. Poète, rédacteur de nouvelles et fonctionnaire, il entre au ministère fédéral des Affaires indiennes en 1879. Écoutez bien comme il s'exprimait. Notre objectif est de poursuivre le travail jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul Indien au Canada qui n'ait pas été absorbé par le corps politique et jusqu'à ce qu'il n'ait plus de questions indiennes ni de département des affaires des sauvages. Si aux États-Unis, on a inventé le dicton « le seul bon Indien est un Indien mort », au Canada, on dira « le seul bon Indien est un non-Indien ». En complément, l'État entreprend d'éduquer les enfants à la manière des Blancs, un système efficace qui devrait accélérer leur assimilation et leur acculturation définitive, ce qui devrait être bénéfique tant aux Blancs qu'aux Autochtones. Fin de citation.
Waouh.
D'abord la mise en réserve, ou les parcs comme animaux, hein, puis les pensionnats. Tout cela après avoir été exterminé par les guerres et les maladies. Bon, tout va bien, quoi. Après, on se dit, ces gens-là, ils ont un problème. Pourquoi ils boivent autant? Pourquoi ils ont des problèmes? Ils n'arrivent pas à élever correctement leurs enfants. Mais qu'est-ce qui se passe? Destruction d'un peuple. On arrive dans un endroit. On prend des personnes qui vivent dans un lieu qui ne dépendent de personne, qui sont totalement autonomes avec leur système économique, etc., leur gouvernance. On prend ces gens-là, on les place dans un territoire limité de force. Jusque dans les années 60, au nord du Québec, à cette île, les autochtones des réserves de Huachat et de Mengan, que nous avons visitées, hein, vivaient dans des réserves entourées de barbelés. Pour sortir aller à la pêche, il fallait qu'ils aient une carte. Que nous le voulions ou non, notre vision du monde a été influencée par la construction de la civilisation occidentale. Malheureusement, de la religion mal interprétée comme un fer de lance. Nous sommes pris dans ce courant. Je crois personnellement que les autochtones ont peut-être encore quelque chose à nous apprendre, mais bientôt, ça sera trop tard. Et je pense qu'il n'est pas possible de se réconcilier sans vérité. Cette doctrine dit de la découverte, et comme je le dis, c'est pas une question de catholique, anglican, luthérien, réformé. Je parle aussi des évangéliques, ceux qui sont nés de la dernière pluie, auxquels je m'identifie malgré tout. Mais je vois les dégâts occasionnés dans certaines réserves indiennes, notre façon de faire est quand même parfois un peu impérialiste. Au modèle, hein, on est au modèle. Hein. En tout cas, 400 ans de persécution, d'assimilation ne se gomment pas en quelques heures ou en faisant du porte-à-porte ou en distribuant quelques cadeaux de Noël comme on l'a fait au mois de décembre. Je suis étranger au christianisme, me disait un Indien. Je suis étranger au christianisme. Vous imaginez d'entendre un truc pareil? Je suis étranger au christianisme. Moi, quand j'entends ça, ça me fait mal. Parce qu'on peut être étranger au christianisme à cause de tout ça. Mais va parler de Jésus. Va parler du Christ. Va parler du salut. C'est pas évident à des gens qui se sentent eux-mêmes étrangers au christianisme. C'est terrible. Bien sûr que le monde va être renouvelé. Bien sûr. Mais j'ai tendance à dire, ah ben ça y est, on y est, à quoi bon se bouger finalement, on y est presque là. Hein? J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise, à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumise. L'épître à Timothée aussi, sache que dans les derniers temps, etc. Et j'ai l'impression que tous ces passages nous poussent à attendre que ça se passe, finalement. Peut-être que Dieu n'en a pas fini avec la terre, hein. Peut-être. Je sais pas à quoi sert cette réflexion. Peut-être à regarder les choses en face. Peut-être à se rapprocher de la création. Peut-être aussi que c'est difficile à entendre, mais il faut l'entendre. C'est sûr qu'il y a du positif. Moi, j'ai un Indien, mais d'ailleurs Melvin, me disait, tu sais, malgré tout ce que j'ai vécu dans les pensionnats, je remercie d'avoir entendu parler de Jésus et du salut. Un gars qui avait fait de la prison, mais il raconte une histoire. un autochtone en prison qui disait, vous savez, moi je voulais rien savoir du christianisme, puis on m'a offert une Bible. On m'a offert une Bible, puis dans certaines Bibles, les pages sont fines. Au point que dans certaines prisons, ils ont refusé qu'on offre des Bibles parce que les gens fumaient. Et le gars, il dit, mais moi j'ai fumé tout Matthieu, tout Marc, tout Luc, et quand je suis arrivé à Jean, je me suis converti. Et ça leur sert de papier à cigarette, tu vois. En tout cas, notre vision du monde doit changer. Et la vision du monde comprend la protection de l'environnement. Ça comprend les arts. Les arts, oui, ça fait partie de la vision du monde, de l'art. L'art amérindien est fabuleux. Nous aussi, en Occident, on a de l'art. C'est fabuleux. L'art, les institutions religieuses, la politique, l'éducation, la santé publique, les systèmes juridiques, la vision du monde, elle englobe toutes ces choses-là. C'est notre relation de la vision du monde et de la culture. Ce sont des réalités très philosophiques, religieuses. Elles ne sont pas pour autant spirituelles, même si on parle de l'esprit d'une époque. Il paraît que la langue qu'on parle a une influence sur la façon dont on voit les choses. Par exemple, contrairement aux Navarro, il y a une tribu qui n'ont pas de mot pour désert, parce que le désert n'existe pas chez eux. Donc il n'y a pas de mot pour. Et puis on dit de certaines personnes qu'elles vivent aussi dans un monde à part, dans leur univers. C'est peut-être pour ça que les Blancs, ils ont eu du mal à vouloir éduquer des enfants indiens. Leur langage correspond à un autre univers. La foi, c'est aussi une composante essentielle des êtres humains. Tous croient en quelque chose. Croire en rien, c'est aussi croire en rien. Qui suis-je ? Quelle est la nature de l'être humain, son rôle et le sens de la vie, de sa vie ? Ça, c'est des questions que chaque être humain se pose, quel que soit son pays, ses origines, sa tribu. Qui suis-je ? Ou encore, quelle est la nature de l'univers dans lequel je vis ? Ça, c'est des questions que les gens se posent. Et puis, où est le problème ? Ou quel est l'obstacle principal qui m'empêche finalement de connaître un plein épanouissement ? Pourquoi je souffre ? Pourquoi je meurs ? Quelle est la nature du mal ? Quelle compréhension j'en ai ? Quel est le remède ? Ou comment vaincre l'obstacle qui s'oppose à mon épanouissement ? Comment puis-je être sauvé ? La réponse, bien sûr, elle est en Christ. Et c'est pour ça que là, c'est le deuxième volet. Le troisième, c'est vraiment, je mets un accent sur la personne de Christ au travers de Colossiens 1, Romains 1, Jean 1. Il est celui qui parle à la mer, il est celui qui parle au vent, il est celui qu'en parlant, les gens qui boitaient ne boitent plus, les gens qui étaient morts ressuscitent. Il est la vie. Par lui, pour lui, tout a été créé. Je vais prier. Seigneur, c'est vrai qu'on peut être attristé d'apprendre que finalement, nous avons été nombreux à utiliser la foi chrétienne pour des raisons totalement égoïstes, des raisons de pouvoir et de gloire. Seigneur, même si c'était qu'une époque que nous venons d'évoquer, Seigneur, aide-nous à discerner aussi dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, tout ce qui fait partie de cette toile de fond, tout ce qui peut nous bloquer, tout ce qui peut nous influencer négativement. Seigneur, je suis sûr que tu avais aussi ta vision de l'église locale. Tu avais ta vision du monde, tu voulais nous transmettre cette vision, mais aussi cette vision de l'église locale, ce que nous sommes, nous, en tant que famille. Aide-nous à discerner ce qui ne vient pas de toi, Seigneur. Aide-nous à voir dans nos comportements, dans notre façon de vivre, ce qui ne t'honore pas, ce qui est habitude, des choses pour lesquelles on ne réfléchit même plus. Mais Seigneur, aide-nous aussi en tant qu'Église, en tant que peuple qui t'appartient, d'avoir de la pertinence dans la façon dont nous proposons l'Évangile autour de nous. Donne-nous de pouvoir être des témoins par nos comportements, par nos vies, par notre façon d'être. Seigneur, apprends-moi à être modeste. Apprends-moi à aimer mon prochain même s'il est différent. Aide-nous à comprendre les enjeux de notre société, les défis, les écueils aussi. Aide-nous à nous dissocier, Seigneur, d'une vision caricaturale du christianisme, Seigneur, ce qu'on essaie de nous coller, avec raison. Mais Seigneur, nous avons besoin de revenir à la simplicité, de revenir à l'essentiel. Parce que nous avons un trésor et nous voulons le partager. Et ce trésor, c'est toi. Merci pour ta présence avec nous ce matin. En ton nom, pour ta gloire, Seigneur. Amen.